Mathieu Grouès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion institutionnelle chez Lazard Frères Gestion. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Après, sans doute, deux événements que vous avez vécu bien sûr de près, la réunion de la Banque Centrale Européenne au cours de ce mois-ci, et puis les déclarations de Mario Draghi, et puis ce qui s'est passé en Allemagne par rapport à ces mesures justement de la Banque et du plan européen de soutien. Comment vous abordez cette rentrée? Est-ce que c'est, on peut le dire, avec un peu plus d'optimisme? Est-ce que c'est un optimisme raisonné? Quel est un peu votre sentiment de rentrée?
C'est clair que ce qui s'est passé cet été, qui a été confirmé lors de la dernière réunion, c'est-à-dire la décision de la Banque Centrale Européenne de soutenir les dettes des États qui feraient appel à l'EFSF en achetant, elle, sur le marché secondaire pour faire baisser les taux d'intérêt, au moins sur des maturités courtes, hein, jusqu'à 3 ans, pour nous, c'est un élément vraiment décisif. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais je crois que c'est un peu le bazooka que le marché attendait. Alors, ce n'est pas un bazooka qui vient d'être utilisé ou qui va être utilisé demain. Mais c'est un bazooka qui est disponible, auquel un pays peut faire appel si nécessaire. Et je crois que sans faire disparaître les problèmes de fond qui existent, ça donne du temps et ça rassure.
Donc ça évite peut-être notamment à la frange d'investisseurs qui voyaient forcément de manière inéluctable la dislocation de la zone euro, qu'il y avait encore des moyens en face,
Tout
quelque
à fait,
part.
et ça évite le risque de marché avec des spreads qui s'envolent et personne qui peut les contrer. Là, il y a un agent qui est capable de lutter face à des dérives de marché. Et donc, c'est vrai que les scénarios du pire qui étaient envisagés, la dislocation de la zone euro, sont quand même ont pratiquement disparu aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire que très rapidement, on va dire une fois cet optimisme revenu, les investisseurs sont focalisés sur les questions liées à la croissance, par exemple, donc enfin, l'absence de croissance si en zone euro?
Je ne sais pas si les marchés sont déjà concentrés sur ces éléments-là. Donc la dernière réunion de la BCE était récente. Hein, le jugement de la Cour constitutionnelle, c'était hier, donc c'était vraiment très très récent. On a aujourd'hui la Banque centrale américaine qui va annoncer ou non un quantitative easing numéro 3. Après, on a encore des sommets européens, des eurogroupes. Il y a un certain nombre d'échéances. Il y a l'attente de savoir est-ce que l'Espagne va faire appel à l'EFSF pour permettre à la Banque centrale européenne d'intervenir. Donc il y a encore que quelques éléments comme ça qui concentrent l'attention des marchés. Il y a à venir et qui va s'intensifier sans doute le fiscal cliff, la falaise fiscale américaine qui s'approche à grands pas. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on aura évacué un peu tout ça, je pense que les marchés vont se reconcentrer sur la croissance, c'est clair.
On entend parfois des économistes dire que justement cette question américaine va devenir très, enfin on va dire, le point central de tous les investisseurs, savoir si les États-Unis arrivent à trouver une solution donc en fin d'année.
Je pense que ça va devenir le point central. J'espère que ça va devenir le point central, parce que si ça devient le point central, ça veut dire qu'il n'y a pas de point plus inquiétant dans la zone euro, et ça veut dire qu'on gère bien nos sujets. Et si on gère bien nos sujets, c'est vrai que la principale interrogation qui restera pour la fin d'année, ça sera la capacité des Américains à obtenir un accord entre républicains et démocrates suffisamment vite pour ne pas paniquer les marchés. Je pense qu'au final, on aura un accord de toute façon. J'envisage pas un début d'année 2013 sans accord, mais c'est vrai que c'est pas pareil de l'obtenir début novembre et de l'obtenir début janvier.
On avait vu la dernière fois sur ce sujet de la dette américaine, ça avait été limite, limite, et donc les investisseurs s'étaient inquiétés fortement.
Tout à fait, ça avait été très très difficile la dernière fois. Cette fois-ci, ça va un peu dépendre des élections. Si après les élections, on a un président et les deux chambres du même bord, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à trouver un accord entre eux. Si on a, ça peut être le cas si Obama est élu, un président d'un côté et puis une des deux chambres du camp opposé, là, on risque d'avoir une période un peu difficile comme on l'a connue l'été dernier au moment des négociations précédentes.
Donc à nouveau dans les mains du politique, les investisseurs ne peuvent rien faire, là ils peuvent qu'attendre.
Exactement, c'est une situation qu'on connaît bien depuis 2 ans malheureusement, et c'est vrai que ce n'est pas la situation qu'on préfère parce que les décisions politiques, ce n'est pas les plus faciles à anticiper, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de théorie, c'est vraiment du cas par cas.
Alors on parlait de ces questions de croissance et de plan de rigueur, notamment en Europe. Il y en a qui ont été déjà annoncés sur les pays périphériques, il y en a qui viennent d'être annoncés, on pense à la France. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes et si on regarde du côté des entreprises, on voit quand même certaines entreprises qui commencent à souffrir un petit peu de cette non-croissance de la zone euro.
Sur les plans de rigueur et la croissance, quelque chose qu'on veut souligner parce qu'on pense que c'est important, c'est que certes les plans d'austérité pèsent sur la croissance, c'est indiscutable, mais rendre les plans d'austérité responsable de l'ensemble du ralentissement actuel, c'est très exagéré, c'est-à-dire qu'il pèse partiellement, mais pour nous, l'impact dont l'élément le plus négatif, celui qui pèse le plus sur la croissance, ce n'est pas tant ces plans d'austérité que la chute de confiance à cause des crises à répétition sur les marchés financiers, à cause des premières pages de journaux qui vous annoncent la fin de la zone euro. Et pour nous, c'est vraiment ça l'élément essentiel. Donc l'austérité, on n'y changera pas grand-chose. Et ça sera toujours un élément un peu négatif. Par contre, la confiance, là, il y a une vraie capacité à agir de la part des politiques. Et s'ils arrivent à la restaurer, je pense qu'on peut améliorer la croissance sans renouer avec du 2 ou 3% dans la zone euro, mais repasser en territoire positif l'année prochaine, c'est tout à fait envisageable si on sait gérer cette situation de crise et si on sait gérer cette confiance.
Mmh. C'est-à-dire que ça permettrait à nouveau peut-être des investissements qui aujourd'hui sont freinés ou reportés.
Exactement, ça peut aider sur l'investissement, ça peut beaucoup aider sur le stockage. On ne le sait pas, mais sur les 4 derniers trimestres, ce qui a le plus coûté à la croissance dans la zone euro, c'est le déstockage. Ça a coûté 1,1% de croissance, donc on est à moins 0,5%. Hors déstockage, on était à plus 0,6. Et ce déstockage, c'est vraiment un comportement typique. On avait eu quelque chose d'équivalent en 2009. C'est quand vous avez peur, vous essayez de récupérer de l'argent où vous pouvez. Pour récupérer de l'argent, vous économisez, vous achetez moins, vous essayez de d'écouler les stocks. Et ça, c'est quelque chose, normalement, on doit pouvoir regagner un peu là-dessus.
Pour l'investisseur qui voit ça, il pourrait dire, comme on l'a indiqué tout à l'heure, qu'il y a eu cette amélioration dans la zone euro, en tout cas, un peu rassuré, mais il y a toujours des risques qui ne sont pas loin. Qu'est-ce que ça veut dire justement pour vous, pour l'évolution de votre stratégie en termes d'allocation d'actifs justement ?
Je crois que en termes de stratégie, nous on a un positionnement qui est positif depuis un certain temps. Donc on est positionné sur les actifs les plus risqués, les actions, le high yield, les dettes subordonnées financières. Idéalement, il faudrait être capable d'acheter au point bas, de sortir sur des points hauts locaux juste avant la crise pour pouvoir racheter en dessous. C'est quelque chose qui est très difficile, qui nous paraît assez hasardeux. Et donc, je crois que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de bien mesurer sa capacité à supporter la volatilité des marchés, être sûr qu'on peut supporter une baisse de 30% sur les actions dans lesquelles on souhaite investir. Et une fois qu'on est sûr de supporter la volatilité, il faut être capable d'acheter. Parce qu'à horizon 4 ans, 5 ans, je pense que toutes les classes d'actifs dites risquées, donc au moins offensives du type action, auront une très bonne performance. La seule chose, c'est qu'il faut être sûr de ne pas avoir vendu en état de panique sur un trou de marché intermédiaire, parce que là, ce serait la catastrophe.
On voit effectivement, alors, de l'autre côté, sur la partie obligataire, alors il reste encore, de votre point de vue, des opportunités à faire sur justement les émissions des entreprises qui, on le voit pour certaines d'entre elles, là, se refinancent en ce moment sur les marchés obligataires.
C'est compliqué. Sur l'obligataire, vous avez deux composantes. La composante taux d'État, où là, les taux d'État de référence allemands sont au plancher. Donc, il n'y a rien à gagner. Il y a sans doute à craindre une remontée des taux. Et vous avez une deuxième composante, c'est la rémunération du crédit, donc le spread. Je pense que ce qui va se passer dans le futur, si la crise ne revient pas et si on arrive à gérer tout ça, c'est qu'on va avoir une remontée des taux d'État et puis une compression de la marge de crédit, une compression du spread. Ce qu'il faut, c'est gagner plus sur la baisse du spread que sur la hausse des taux d'État. Et donc, il faut aller sur des spreads relativement larges, relativement offensifs, donc aller vers des émissions, en fait, pas de trop bonne qualité. La trop bonne qualité, ça ressemble trop à l'État, et c'est un peu le risque de perdre de l'argent avec la remontée des taux. Il faut aller vers des émetteurs non-investment grade, high yield, comme on dit, ou pourquoi pas sur des dettes financières.
Le mot de conclusion, peut-être, c'est un sujet aussi qui revient régulièrement compte tenu de la politique des banques centrales européennes, c'est l'or. Est-ce que dans les portefeuilles, l'or est un actif à avoir, entre guillemets, certains disent une assurance, mais bon, on sait que ce n'est pas une assurance vie forcément.
Non, ce n'est pas notre idée, c'est-à-dire que l'or ne rapporte rien. L'or, c'est totalement spéculatif, c'est-à-dire que s'il baisse, vous n'avez même pas de rendement, de coupon, de loyer ou quoi que ce soit pour vous récupérer. Et donc, c'est bien de diversifier son portefeuille, mais à la limite, de l'obligataire, c'est aussi protecteur quand la version risque augmente, ça s'apprécie aussi. Et au moins, vous avez un rendement qui est quand même un peu récurrent. Donc, nous ne sommes pas des grands défenseurs de l'investissement dans l'or.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Mathieu Grouès. On rappelle que vous êtes donc le directeur de la gestion institutionnelle chez Lazard Frères Gestion.
Merci.